Hey, c'est l'équipe d'ActuVu qui vient caresser tes oreilles. Tu nous connais maintenant, nous sommes des étudiants journalistes confinés et nous nous adressons aux étudiants qui remplissent leur dossier pour intégrer une école. Nous sommes en école de journalisme depuis presque un an maintenant et nous sommes là pour vous aider. Nous aussi on a galéré, nous aussi on était épuisés en avril 2019, nous aussi on était stressés, mais nous, on n'avait pas ActuVu. Sous nos couettes, toutes les semaines, on donne tout pour chercher des actus marquantes, autres que le Covid-truc là qui nous gâche la vie. C'est Capucine qui vous parle depuis le garage de sa maison, et trop bien parce que je serai avec vous tout le long de l'émission. Depuis toute la France, un tonnerre d'applaudissements pour les chroniqueurs de cette semaine, Héloïse, Simon, Majid, Clément, Julien et Agathe. Et on salue bien sûr le travail des monteurs, Simon, Julien et Juliette, qui travaillent avec une excitation extrême le vendredi soir. Dans ce 7e épisode, nous parlerons de l'enjeu des territoires du Jourdain dans le conflit israélo-palestinien. Simon nous expliquera les tensions entre Muriel Pénicaud et les inspecteurs du travail. Clément va nous parler de la justice à l'arrêt. En sport, Julien nous expliquera le rachat de Newcastle et l'affrontement Arabie-Qatar. Et enfin, Agathe vous parlera des reportages qui ont marqué la rédac. Mais avant tout, sortez vos plus beaux surligneurs, c'est l'heure de la chronique affluotée et c'est notre nouvelle recrue toute fraîche qui s'y colle. Héloïse, c'est à toi!
€7 milliards d'euros, c'est le montant du plan de soutien de la part de l'État destiné à Air France KLM. La pandémie impacte fortement l'entreprise. 180 avions, ce qui correspond à plus de 80% de la flotte aérienne, sont actuellement cloués au sol. 95 €, ce sera bientôt le nouveau plafond du ticket restaurant pour aller faire ses courses. Il était auparavant de 19 €. En France, 4 millions de salariés bénéficient de ce moyen de paiement. Ce déplafonnement, bien que temporaire, pourrait être également autorisé dans les restaurants quand sonnera l'heure des réouvertures. 5,7% de Français infectés par le Covid-19 depuis le début de l'épidémie. C'est le résultat de l'étude faite par des chercheurs de l'Institut Pasteur. On est donc loin des 70% nécessaires pour créer une immunité collective. Une deuxième vague semble presque inévitable après le 11 mai selon les scientifiques. Un nom à retenir cette semaine, Monique Villemain. Âgée de 88 ans, elle est décédée des suites du Covid-19. Elle était la grand-mère du petit Grégory, assassiné en 1984. On termine avec l'ouverture du premier procès au monde d'anciens dirigeants du régime de Bachar al-Assad. C'est en Allemagne, à Koblenz, Kanwar, Razlan et Eyad Al-Gharib, deux anciens officiers des services de renseignement à Damas, sont jugés pour crimes contre l'humanité.
On attaque direct avec la chronique internationale. Keep America
great. How dare you?
Can't be do what we want to do.
How dare!
Mad, tu nous parles d'Israël ?
C'était une semaine mouvementée en nouvelles pour les Israéliens. Tout d'abord, Benny Gantz et Benjamin Netanyahou, respectivement chefs du Parti Bleu et du Likoud, ont formé ce lundi 20 avril un gouvernement d'urgence. Le prochain scrutin législatif aura donc lieu dans 3 ans. Ils mettent fin à une guerre électorale de plusieurs mois, mais surtout, cette formation met fin à 16 mois d'un gouvernement de transition. Une instabilité jamais vue dans la jeune histoire du pays. Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'État israélien est au centre du conflit le plus vieux du monde avec la Palestine. Une question épineuse est revenue au centre des débats, le Jourdain et les colonies israéliennes. Cette alliance entre Gantz et Netanyahou symbolise la possibilité d'un vote. Dès le 1er juillet, ils pourront voter l'annexion de la vallée du Jourdain et d'une partie des colonies israéliennes en terre palestinienne. Une démarche encouragée par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo.
Pourquoi ils sont si importants ces territoires ?
D'une part, le Jourdain constitue une symbolique religieuse particulière pour les juifs israéliens. D'autre part, l'annexion des colonies israéliennes est une promesse de campagne de Netanyahou faite en septembre 2019. Mais voilà, une telle annexion mettra en péril plusieurs choses, comme l'explique le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgeit.
Cela constitue une nouvelle agression, a-t-il dit, précisant qu'une telle annexion violerait le droit international et de prévenir que cela ruinerait toute chance de progrès dans les discussions de paix.
L'ONU a mis en garde les dirigeants israéliens contre une annexion des terres en Cisjordanie.
C'est quoi les brèves de la semaine ?
Empêcher l'accès aux réseaux sociaux pour appliquer de nouvelles règles de censure. C'est ce que le Vietnam a effectué. Selon l'agence de presse américaine Reuters, Facebook a accepté un ralentissement de ses serveurs dans le pays sur demande du gouvernement. gouvernement. Ainsi, l'accès à des contenus jugés illégaux a été limité entre mi-février et début avril. En termes de liberté d'expression, le pays est d'ailleurs classé 175e sur 180 dans le classement de Reporters sans frontières. Le crédit est roi au Canada. Les ménages présentent une donnée tristement historique. Le ratio de leur dette en proportion des revenus disponibles atteint 174%. Un chiffre principalement expliqué par une politique des banques qui encourage ses clients à l'utilisation de la carte de crédit en se basant sur une cote de confiance. Durant la crise sanitaire, le Premier ministre Justin Trudeau demandait aux banques de faire preuve de souplesse vis-à-vis des travailleurs les plus touchés.
Merci Mad. On retourne en France maintenant.
La République, c'est moi !
Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
Et ils sont là ! Ils sont dans les campagnes !
Parce que c'est notre projet !
Simon, aujourd'hui, on s'intéresse aux tensions internes au ministère du Travail. À ce qui paraît, il y a une bataille entre Muriel Pénicaud et les inspecteurs du travail. C'est quoi l'embrouille ?
Effectivement, d'après un article de Libération, les tensions se seraient peu à peu accentuées depuis le mois de mars. Une communication plus que compliquée entre la hiérarchie et les agents, à ce quoi vous ajoutez une petite épidémie, et le tour est joué, les disputes peuvent éclater. On est donc maintenant dans une situation où une plainte contre le gouvernement a été déposée auprès de l'Organisation internationale du travail et dans le même temps un inspecteur du travail a été mis à pied. Cependant, aucun lien direct entre les deux affaires, elles illustrent juste l'ambiance générale qu'il plane au ministère du travail.
Tu nous as parlé d'une plainte contre le gouvernement, c'est ça ?
Oui, elle a été déposée par 4 syndicats auprès de l'Organisation internationale du travail et dénonce la restriction du pouvoir des inspecteurs du travail. En cause, 4 notes et instructions émises par la Direction générale du travail en demandant par exemple aux agents de diffuser les informations utiles pour la continuité de l'activité, ces notes détourneraient les contrôleurs de leur mission principale qui est de s'assurer de la protection des salariés pour lequel il est impossible de télétravailler. De plus, en imposant des limitations d'intervention ou en demandant aux agents de renseigner la date et l'heure à laquelle ils passeront dans les entreprises, les syndicats affirment que la hiérarchie bafoue le champ d'intervention des agents. De l'autre côté, le ministère affirme que ces mesures ne visent qu'à assurer la protection et la sécurité de ses agents.
Et ce qui a compliqué le tout, c'est la mise à pied d'un inspecteur dans la Marne, si j'ai bien compris.
Exact, en plus des pressions directes qui auraient été exercées sur les inspecteurs, la mise à pied d'un d'entre eux n'a rien arrangé. Connu pour son engagement à la CGT, il venait de saisir la justice pour obliger une association d'aide à domicile à équiper ses salariés d'un meilleur matériel de protection, et il a été suspendu quelques heures après, puisque selon le ministère, sa démarche demandait le maintien d'une activité non conformément aux recommandations sanitaires.
Apparemment, t'aurais entendu qu'on allait devoir travailler plus l'année prochaine ?
Et c'est Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, qui le dit au grand entretien de France Inter.
La durée hebdomadaire n'est plus le bon pas de temps pour le temps de travail, mais je pense que pendant une année, il faudra accepter de travailler peut-être jusqu'à 37 heures par semaine, c'est-à-dire aux alentours de 1700 heures à l'année.
Pour le sénateur, depuis 2004, l'enjeu n'est pas seulement d'essayer de combler les pertes de la crise économique, il est aussi de rattraper le retard sur les marchés des entreprises françaises qui redémarreront plus tard que certains de nos voisins européens.
Bon allez, pour finir sur une note positive, parle-nous d'écologie.
Alors même si cela reste plutôt lointain, le gouvernement a enfin adopté sa feuille de route énergétique à l'horizon 2028 jeudi dernier. Enfin, parce que son adoption était quand même attendue depuis fin 2018. Au programme, la réduction de la dépendance nucléaire, le gouvernement veut fermer 14 réacteurs d'ici 2035 et passer de 70 à 50 la part du nucléaire dans la production d'électricité.
Merci Simon, c'est le moment de passer à la rubrique Société avec Clément.
Bah, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service monsieur.
J'en avais assez hein. Vous avez assez de cette bande de racailles.
Clément va nous parler d'un sujet hyper sympa, la peine de mort, car mardi, Amnesty International a publié son rapport sur le sujet.
Oui, Capucine, 657, c'est le nombre d'exécutions capitales dans le monde en 2019. Une diminution de 5% par rapport à l'année précédente. La tendance est à la baisse depuis 2015, année record de 1634 exécutions.
Et il nous dit quoi d'autre, ce rapport ?
Trois pays concentrent à eux seuls 81% des exécutions déclarées. L'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran. Toutefois, l'ONG n'a pas de chiffres concernant des pays comme la Corée du Nord ou la Chine, où elle estime qu'il y a des milliers d'exécutions chaque année. Selon Amnesty International, toujours, 26 604 personnes étaient sous le coup d'une condamnation à mort l'année dernière.
Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir.
La semaine dernière, au Yémen, 4 journalistes ont été condamnés à la peine de mort.
Qui dit journaliste, dit liberté de la presse. Comment va la liberté d'informer à l'heure du coronavirus ?
Reporters sans frontières réalise chaque année le classement de 180 pays. Pour la 4e année consécutive, la Norvège arrive à la première place. En bas du classement, on retrouve la Chine, l'Érythrée et la Corée du Nord, bon dernier. La France, elle, est classée 34e, elle perd 2 places.
Le coronavirus a-t-il impacté la liberté de la presse ?
Oui, certains pays profitent de la situation pour pratiquer la censure. En Irak, l'agence de presse Reuters s'est vue suspendre sa licence pour 3 mois. Elle avait publié une dépêche remettant en cause les chiffres officiels de l'épidémie. En Algérie, le pouvoir en a profité pour fermer le site Maghreb Émergent, Radio M et Interligne, des médias indépendants.
Tu voulais aussi nous parler, Clément, de la situation de la justice civile.
Effectivement, parce que si la justice pénale continue de fonctionner, la justice civile, elle, est quasiment à l'arrêt. La justice civile, c'est elle qui tranche les conflits entre les personnes, contentieux familiaux, de propriété, de dette, bref, toutes les affaires du quotidien. En 2018, c'était 2,2 millions de décisions rendues. Mais avec le confinement, un palais de justice, c'est plutôt vide en ce moment.
Mais pourquoi ne pas utiliser le télétravail ?
Très difficile à mettre en place. La justice civile n'est pas prête et n'a pas les outils numériques en nombre suffisant. Certains réseaux privés des tribunaux n'étaient, par exemple, pas en capacité de voir se connecter en même temps tous les magistrats. On invite également les avocats à ne plus déposer physiquement des dossiers, faute de pouvoir les enregistrer par des greffiers. Mais au ministère de la Justice, on récuse le terme de justice à l'arrêt.
Cela veut quand même dire qu'il y a des dossiers qui s'accumulent, donc à rattraper, non ?
Exact. Quand la justice civile reprendra son cours normal, il lui faudra traiter les dossiers qui arrivent, plus le retard accumulé. Selon un juge du tribunal de Nanterre, ça serait 1 à 1 an et demi pour tout rattraper. Le barreau de Paris, pour réduire l'engorgement, prévoit des procédures sans plaidoirie, du jamais vu. Les parties civiles peuvent cependant refuser et demander un renvoi.
Merci Clément. Chef, c'est à ton tour. C'est toi qui nous parles de sport.
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Pas ça, Zinedine. Non. Oh non.
C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein.
La chatte, qui va, la chatte.
Mais attends, cette semaine, tu nous parles encore de foot ?
Oui, mais cette fois, Caps, je me suis penché sur les liens étroits entre le football et la politique. Si le football est le sport numéro 1 à l'international, il est aussi l'objet de concurrence entre États. Cette semaine, le journal anglais Le Time faisait sa une sur le rachat du club anglais de Newcastle. La vente pourrait être officielle dans quelques semaines, mais ce n'est pas les 345 millions d'euros mis sur la table qui font polémique. Le fonds d'investissement qui souhaite racheter le club appartient à la famille royale saoudienne et plus précisément à un certain Mohamed Ben Salman.
Alors forcément, ce possible rachat ne plaît pas à tout le monde.
À commencer par Amnesty International. L'ONG a envoyé une lettre au président de la Premier League, le championnat de football anglais, pour l'avertir des dangers d'un tel rachat. Rappelons quand même que l'Arabie Saoudite est régulièrement accusée d'atteinte aux droits de l'homme et de la femme, et que le prince héritier est soupçonné d'avoir orchestré le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Mais surtout, c'est le Qatar qui s'est opposé au rachat saoudien.
Il est où le problème, Julien ?
Petit rappel géopolitique, le Qatar et l'Arabie Saoudite ne sont pas très copains, surtout depuis 2010 et les printemps arabes, alors que le royaume saoudien soutient les pouvoirs en place, l'État qatari soutient les mouvements révolutionnaires. En 2017, l'Arabie Saoudite a même placé sous blocus ce petit État du Golfe. Alors, quand le Qatar a appris que l'Arabie Saoudite allait racheter un club anglais, il s'y est immédiatement opposé à travers sa chaîne beIN Sport. Le groupe audiovisuel qatari a envoyé une lettre aux dirigeants du championnat anglais que la chaîne diffuse dans de nombreux pays. Elle se demande si les Saoudiens sont les bonnes personnes pour diriger le club et rappelle que l'Arabie Saoudite a créé en 2017 une chaîne sportive, BeOut, qui pirate et diffuse les images de beIN.
On assiste en fait à une bataille régionale dans le monde du foot.
Tout à fait, Caps, c'est le fameux soft power dont on vous a sans parler au lycée. L'Arabie Saoudite prépare son avenir et l'après-pétrole. Elle investit dans différents domaines, dont le sport. À travers ce rachat, elle souhaite également concurrencer les autres monarchies pétrolières du Golfe. Les Émirats Arabes Unis avaient acheté le club de Manchester City en 2008 et le Qatar a racheté en 2011 le club du Paris Saint-Germain.
C'est le moment de faire plaisir aux fans de musique.
Visiblement, le confinement donne des idées à de nombreux chanteurs. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les joueurs de Fortnite ont assisté à un concert de Travis Scott dans le jeu. Si le concert virtuel n'a duré que 10 minutes, il a rassemblé 12,3 millions de personnes. Et on termine par une autre initiative, encore un concert virtuel, mais celui-ci a réuni des dizaines d'artistes du monde entier pour soutenir les soignants en première ligne face à l'épidémie. One World Together at Home a permis de récolter 127 millions de dollars pour le fonds créé par l'OMS contre le Covid.
Merci Julien. La semaine dernière, Marion présentait les journalistes préférés de la rédac. Aujourd'hui, Agathe, tu nous parles de reportage.
Je te donne juste un petit conseil.
Franchement, il faut que tu vois ça.
Tu le connais, lui ?
C'est vraiment pas mal, ce livre.
Ça, c'est bon à savoir.
C'est quand l'apéro ?
C'est un incontournable.
Il faut que t'écoutes ça.
J'adore le concept.
C'est de la bombe.
C'est où que ça twerk ?
Mais elle est où, la moulaga ?
Eh oui, lors d'un entretien, parler d'une production journalistique qui vous a marqué et savoir expliquer pourquoi, c'est une question récurrente. Alors voici une petite sélection de reportages, de médias et de formats divers, en espérant que ça vous donne quelques idées.
On commence par quoi ?
On commence par du reportage comme on n'a pas souvent l'habitude d'en voir, ou plutôt d'en lire. Clément nous avait déjà parlé du 21 et on sait que c'est aussi le chouchou de notre nouvelle recrue Héloïse. Mais là, je vais vous parler d'un hors-série présenté comme le meilleur du journalisme en récit graphique. C'est 8 reportages en bande dessinée allant d'un lac de sel en Bolivie à une colo pour adultes handicapés près de Lourdes. C'est beau, c'est drôle, c'est instructif et ça change des médias classiques. Toujours dans la catégorie papier, Clément nous conseille le livre River of Time, mais Mémoire de la guerre du Vietnam et du Cambodge de John Swain. Il raconte son voyage en tant que reporter de l'AFP lorsqu'il avait 20 ans et son expérience en tant que seul journaliste sur place en avril 75, le jour où la capitale du Cambodge tombe aux mains des Khmers rouges.
Côté télé maintenant.
On ne change pas une équipe qui gagne. Je ne peux que vous conseiller de suivre Arte et Reportage sur le précieux Canal 7, mais aussi sur Internet. Il en existe littéralement des centaines sur tous les sujets. On citera notamment Un monde obèse, 7 milliards de suspects, le business de l'eau et bien plus encore. C'est clair, net, précis, c'est Arte qui l'a fait, donc qu'est-ce que vous voulez de plus ?
Du podcast, c'est ça qu'on veut.
Si vous écoutez ActuVu, alors vous aimerez sûrement les grands reportages de France Culture, de RFI ou encore Le Monde en reportage sur France Inter. En termes d'actu, je vous conseille le reportage de Solène Lehen et Jérémy Thuil, 24 heures aux côtés des soignants de l'hôpital Bichat à Paris en pleine épidémie, à écouter sur France Info.
On termine avec le 7e art.
Pas de salle obscure avant encore un petit moment, du coup vous pourrez apprécier la beauté du documentaire Lève-toi et marche que nous conseille Juliette et à retrouver sur Spicy. Mathieu Firmin, le rédacteur en chef du média documentaire 100% en ligne, a filmé son parcours et ses rencontres lors de son hospitalisation après être devenu paraplégique. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de Netflix aussi, où on trouve des centaines de documentaires intéressants comme Icar sur un scandale de dopage dans le cyclisme, Le Cirque des Livres ou, pour se faire plaisir et revivre la Coupe du Monde 98, Le Jour Parfait. Quoi que vous aimiez, c'est important d'aller voir ce qui se fait à côté, d'être curieux, d'aller vous balader là où vous n'avez pas l'habitude d'aller et qui sait, vous aurez peut-être des surprises. Pour les oraux, il faut que vous puissiez donner des exemples variés et précis de choses qui vous ont marqué d'un point de vue personnel, professionnel ou les deux. Ça aide le jury à se faire une idée de la personne incroyable que vous êtes. Sur ce, continuez à lire, regarder, écouter et savourer des reportages sous toutes leurs formes et sur tous les sujets. J'espère que ça vous aura été un peu utile. En tout cas, c'est tout pour moi.
C'était nickel, une recommandation très recommandable. Voilà, c'est déjà fini. L'émission est née d'une conversation éméchée. Et grâce à vous, et aussi à notre travail, faut pas déconner, nous sommes très écoutés. Et nous avons appelé Juliette pour qu'elle nous donne les chiffres. Juliette, tu es là ?
Oui, et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise, c'est qu'il va falloir continuer parce que les chiffres sont très bons. On a été écoutés 768 fois et on a 138 followers sur Spotify. En 6 épisodes, je peux vous le dire officiellement, on a le droit de prendre la grosse tête.
Waouh ! Merci Juliette et merci à tous nos auditeurs. ActuVu est aussi présent sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à nous interpeller pour donner vos avis, poser des questions. Nous sommes là pour ça et en plus, c'est gratuit. C'était Capucine, merci à Agathe, Juliette, Simon, Julien, Clément, Majid et Héloïse. On se glissera une nouvelle fois dans vos oreilles la semaine prochaine. Bisous et courage, vous y êtes presque. C'est bon, j'ai fini de présenter. Over ! À vous les studios !